Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose que nous fassions deux courtes lectures dans notre Bible et je vais faire un commentaire sur ce que l'apôtre Paul nous dit. Alors vous savez, il y a des choses, et vous êtes tout à fait conscient, des choses difficiles à comprendre dans la Bible, n'est-ce pas? Oui, quand même, hein. Si je vous envoie faire un petit tour dans le livre du Lévitique ou du livre des Nombres, mais c'est pas ça ce que nous allons... Ça va pas être notre propos ce matin, mais je voudrais... Il y a deux textes qui sont pas faciles à comprendre, mais je vous les expliquer avec une histoire, vous voulez bien? Et je ne ferai rien de particulier que Jésus n'ait fait avant moi. Les choses difficiles, vous savez comment il est traduisé au peuple d'Israël? Eh bien, tout simplement par des paraboles. La parabole, c'est une histoire, c'est une allégorie, qui fait que dans des choses qui sont peut-être difficiles à saisir, eh bien, avec ce genre d'image, la compréhension se fait très rapidement. Alors on va justement voir tout cela. Alors le premier texte, c'est dans le livre de Paul aux Romains. Paul aux Romains, chapitre 5. Voilà, chapitre 5 et le verset 12. Et voilà ce que nous lisons, ce que nous avons devant les yeux. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. L'apôtre, et je commence à donner une petite explication, l'apôtre Paul va montrer en conséquence les résultats, eh bien, de la faillite des hommes dans leur vie, et particulièrement dans ce problème, un problème insurmontable, qui est celui du mal qui existe finalement sur cette terre. Et il dira, mais c'est pourquoi, comme par un seul homme, et vous entendez par là, eh bien, Adam, tout simplement, hein, qui est finalement l'illustration de, ou le type même de l'humanité que nous sommes encore aujourd'hui, et vous connaissez son histoire, puisque dans le livre de la Genèse, eh bien, les choses nous sont explicitées. Et il nous est dit que le péché, le mal, la corruption, est entré, a fait son entrée dans le monde, et a touché tous les domaines de la vie. Et a commencé par sa finalité, par son aboutissement, c'est-à-dire qui est la mort. Mais à travers tout cela, eh bien, il y a bien d'autres situations qui font que notre monde est malheureux. Il connaît la maladie, il connaît des drames, il connaît la guerre, il connaît le sang, il connaît toutes sortes de choses dont nous sommes malheureusement très habitués ou habitués, et on ne s'y habituera jamais naturellement. Mais toujours est-il que c'est ce mélange entre le bon grain et l'ivraie qui fait eh bien que le monde est ce qu'il est. Et heureusement qu'il n'y a pas que le mal, il y a aussi du bien. Il y a aussi du bonheur à côté du malheur. Mais il faut, si nous voulons bien y réfléchir, il faut bien tenir compte que le malheur, ou le mal, il est venu en conséquence d'une désobéissance ou d'une trahison de l'homme, créature de Dieu, vis-à-vis de celui qui, eh bien, l'avait créé, c'est-à-dire son créateur. Et il nous est dit que le péché, eh bien, a entraîné la mort. Et c'est vrai que depuis les temps immémoriaux, les hommes meurent, les uns après les autres, les générations, à travers les siècles, à travers tout cela. Alors, ça, c'est l'explication de Paul, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas toujours très facile à comprendre. Et puis, on va prendre une deuxième lecture, on va rester dans le livre des Romains, Paul aux Romains, chapitre 6, et verset 22, et là, nous allons, eh bien, donner encore un autre sens à notre méditation. Et voilà ce que Paul dit et poursuit. Il dira, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La première proposition qui nous a été faite dans ce que nous avons lu précédemment, c'était, eh bien là, il y a des conséquences irrémédiables à la condition des hommes qui les plongent dans une séparation d'avec leur Créateur, avec Dieu. Mais nous avons finalement, eh bien là, non pas seulement une lueur d'espérance, mais une véritable lumière qui jaillit quand Paul dit « Mais maintenant, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui, mais maintenant, si nous le croyons, maintenant, nous sommes libérés du péché. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien qu'il existât encore ce péché dans notre vie, bien qu'il soit encore présent par la tentation et parfois aussi nos chutes, mais Paul affirme « Nous sommes libérés, nous sommes affranchis du péché et nous sommes devenus, et j'aime pas trop le terme, mais esclaves de Dieu, je voudrais plutôt dire, si vous me permettez que je paraphrase, mais nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Plus encore, parce qu'il y a une notion d'affection, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ça, c'est la nouvelle. Et en conséquence, le fruit de notre vie, eh bien, se manifeste dans la sainteté, c'est-à-dire où là, Dieu, petit à petit, dans tout le cheminement de notre existence, nous amène à des transformations morales, à des transformations intérieures, dans notre mentalité, dans notre manière de penser, dans notre manière de réagir, qui quelque part s'éloignent de plus en plus du mal. Parce que nous ne désirons plus le mal, mais nous aspirons profondément au bien. C'est pourquoi le fruit de tout cela, eh bien, c'est la sainteté, ce qui nous permettra de voir Dieu dans le ciel. Ce qui nous est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, ça c'est le fruit, mais nous avons pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que les promesses que Dieu nous fait dans sa parole, ce sont des promesses qui vont bannir toute crainte et toute peur de nos vies, parce que nous savons que pour nous mourir, ce n'est pas mourir, mais c'est revivre, c'est renaître. Et cela dans l'éternité. Nous sommes des êtres qui sommes renfermés dans la temporalité, c'est-à-dire que nous avons un début, une fin, nous sommes des êtres finis. Nous naissons et nous mourons. Ça, nous le savons. Trop bien d'ailleurs. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu va nous donner, par la vie spirituelle qui est en nous, par la foi en Jésus-Christ, une nouvelle perspective qui va nous aider à supporter les misères, qui va nous aider à supporter les épreuves, qui va nous aider même envers et contre tout, lorsque il y a tant d'épreuves ou de difficultés ou d'afflictions dans notre vie, que nous ne regardons pas uniquement à la terre, mais nous regardons vers le ciel déjà. Et d'ailleurs, c'est les cantiques que nous chantons tous ensemble. Ce sont des cantiques d'espérance. Et nous le disons pas avec des mots, mais nous le disons aussi avec des mots qui accompagnent profondément notre cœur. Nous espérons, nous croyons, et nous avons cette certitude et cette assurance que Jésus est notre Sauveur et qu'il nous destine à partager son éternité avec lui dans la gloire. On peut le traduire de cette manière, si vous voulez. Paul ajoute, avant d'en arriver à mon histoire, « Car le salaire du péché, c'est tout simplement la mort. » Certains d'entre nous, et la plupart d'entre nous, vous êtes salariés. Et vous êtes salarié, pourquoi ? Parce que vous avez travaillé, vous avez mérité avoir un salaire à la fin du mois, d'accord ? Et si, par mégarde, votre patron vous oublie de vous donner votre chèque, vous allez aller le voir. Et vous allez lui dire, mais dites donc, je mérite mon salaire, j'ai travaillé pour vous. Vous comprenez ? Et le péché, eh bien, c'est une œuvre négative, c'est une œuvre délétère, dont nous serons payés, en quelque sorte. C'est pourquoi il est parlé de mot salaire. C'est un dû. C'est une conséquence de quoi ? Eh bien, voilà, la chose est ainsi comprise. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Nous mourons parce que les hommes sont pécheurs. Nous mourons parce que le péché est dans le monde. Nous péchons parce que, finalement, eh bien, les choses, par la désobéissance initiale d'Adam, eh bien, nous sommes tous, en quelque sorte, contaminés par cela. Et si vous voulez avoir la preuve, on n'apprend pas le mal à un petit enfant. Il va le découvrir au fur et à mesure. Il est à l'intérieur lui-même. Quand il pourra faire quelques petites cachotteries, ça commence avec des choses très simples, hein. Des petites cachotteries à maman ou voilà, ben on va pas lui apprendre, il le sait. Un petit mensonge, par exemple. C'est inné. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, quelque part. Mais Dieu est venu fort heureusement pour nous dire, eh bien qu'il y avait une possibilité, mais il nous a dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, eh bien c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Vous avez remarqué qu'il y a un pléonasme, le don gratuit. Un don, c'est déjà gratuit. C'est déjà la gratuité. Et vous avez remarqué, le don gratuit, le mot gratuit évoque le mot grâce, faveur, cadeau de Dieu en quelque sorte. On ne mérite rien. On n'a rien à payer à Dieu. Tout est dans une affaire, dans une disposition morale de notre cœur, de foi. Et à ce moment-là, si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Comme Paul le dira également dans Romains, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, qui écoutons cette parole, autant que nous puissions la comprendre et la saisir, eh bien, à partir du moment où vous dites au fond de votre cœur, « Mais moi, je crois en Jésus-Christ, Jésus est mon Sauveur, il est mon Seigneur », mais vous êtes sauvés, il n'y a plus de condamnation pour vous. Mais il faut vous maintenir dans cette foi-là. Il ne faut pas dire, nous sommes au culte ce matin, je crois en Jésus-Christ, et que vous, lorsque vous aurez passé le seuil de cette porte en disant, ben, « Je ne crois plus en lui », alors à ce moment-là, vous annulez tout simplement votre profession de foi et votre déclaration, en quelque sorte. Alors, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais m'arrêter là sur le commentaire, et j'aimerais maintenant, eh bien, illustrer cette aventure humaine qui est le salut de Dieu et la condition des hommes qui a fait que nous sommes souvent, malheureusement, ou que nous étions auparavant, avant de connaître Jésus, des prisonniers et des esclaves d'une dictature ou d'un dictat qui était celui de l'imprégnation du mal dans notre cœur. Alors le mal, il a toutes sortes de... C'est tout un échantillonnage, c'est très vaste le mal. Ça commence peut-être par des choses qui nous semblent anodines comme le mensonge, ou la dissimulation, des choses comme ça, c'est déjà. Et puis après vous me direz, mais il y a mal et mal, c'est sûr que c'est celui qui va tuer quelqu'un, c'est encore pire. Non, c'est la même chose. D'ailleurs, de toute façon, les différents maux et les différents péchés de la société, eh bien, s'engrènent ou s'emboîtent les uns dans les autres. Hein. Souvent, une chose va entraîner le mensonge et le mensonge va entraîner autre chose. Et c'est ça la condition. Alors, je voudrais vous l'expliquer pour que vous compreniez bien. Et vous allez voir, vous allez comprendre facilement parce que la petite histoire que je vais vous raconter, elle est très simple. Imaginons-nous quelques instants vivre dans une contrée florissante, comme les Saint-Nazaire par exemple. Non, mais dans tous les cas c'est bien agréable d'habiter par ici. Dans une contrée magnifique, que l'on pourrait peut-être qualifier un petit coin de paradis terrestre, qui est fait de vallées et de prairies verdoyantes, mais totalement désertes. Alors c'est vrai que l'environnement il est beau, que je me tourne à droite ou que je me tourne à gauche, je suis émerveillé de voir et d'apercevoir, si c'est un tant soit peu une connaissance de Dieu, que derrière cette belle peinture, derrière cette belle fresque, il y a une main créatrice, c'est celle de Dieu, vous comprenez? Oui, on peut le reconnaître, hein, il y a le livre de la Bible qui nous parle de Dieu et qui rentre dans les détails de ce qu'est Dieu dans son tempérament, dans son caractère, dans ses attributs. Mais il y a le grand livre de la nature autour de nous. Et je me trouve dans cette région et elle est déserte. C'est beau, mais c'est désert. Il n'y a pas de vie, tout simplement. Alors, comme je n'ai rien à faire, un bel après-midi, je vais me promener et je décide de faire la découverte de ce pays merveilleux, tout simplement. Alors, je vais marcher. Je vais prendre mes bonnes chaussures et puis je vais marcher, là, de droite et de gauche. Je vais marcher des heures entières dans cet environnement que je qualifierais d'idyllique. Et à chaque pas que je fais, le spectacle est splendide, il m'émerveille. Je dis, mais qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que la vie est belle ! Qu'est-ce que la nature est belle ! Soit les montagnes, ou soit la mer, ou d'une manière ou d'une autre. Et si je me tourne vers peut-être la terre, je m'aperçois vers le sol, je m'aperçois qu'il y a des fleurs, ils sont de mille couleurs, c'est extraordinaire. Puis, au détour d'un sentier, figurez-vous, au fond d'un bois que je vais croiser, apparaît une vieille et une laide bâtisse. Une vieille maison. Elle est dans l'ombre. Elle est là, enfoui, j'ai prêté attention, mais je ne l'aurais peut-être pas vu autrement. Et Figurez-vous que, en m'approchant, je me rends compte que c'est une ancienne prison abandonnée, désaffectée. Alors on se dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Surtout dans ce cadre-là, dans cet environnement. Et comme je suis un homme et que je suis curieux, vous me le reprocherez pas. C'est ainsi, la curiosité et l'inconnu, figurez-vous, me poussent à tourner la grosse clé sur la serrure qui est encore sur la porte de fer. C'est une prison, vous avez remarqué, hein. Et il y a encore la clé. Quand ils sont partis, ils ont laissé la clé à l'extérieur et là, je pose ma main sur la clé et je m'aperçois qu'elle tourne encore. Et je vais débloquer la serrure, naturellement, comme ça se fait. Et il y a là, à ce moment-là, un grincement lourd. Il y a un grincement terrible du portail et c'est sinistre au possible. Alors, bon, comme la curiosité va plus loin encore et qu'elle elle m'enhardit, je vais rentrer. Je vais rentrer dans cette vieille bâtisse, mais j'ai la clé à la main, vous comprenez? Je l'ai pris, je l'ai retiré, je l'ai dans ma main, et je pénètre prudemment dans l'obscurité. Je vais avancer, pas à pas, et puis, il va se passer une chose. C'est pathétique. Il y a un courant d'air un vent violent qui va se produire, et ça va faire claquer la porte derrière moi. Et je me dis, pas de problème. C'est mes lunettes, hein. Mais j'ai la clé en main. J'ai la clé, donc je suis rassuré, vous comprenez. Je peux continuer à faire ma visite. Je peux continuer à aller visiter là tout ce qui se passe dans cette horrible maison. Je vais bientôt arriver, en montant quelques marches, à un étage. Et à cet étage, il y a une immense pièce qui est percée d'une unique fenêtre sur un mur, tout simplement. Et derrière cette fenêtre, il y a des barreaux. C'est une prison, naturellement. Je me retrouve dans cette situation, et de là, je m'approche. Je vais regarder dehors, et je vais m'apercevoir que mon regard va plonger vers ce vaste et merveilleux paysage dans lequel je me promenais quelques minutes, quelques instants auparavant, et je l'admire. J'étais libre. Maintenant, je me sens libre parce que j'ai encore la clé dans la main, imaginez-vous. Et je m'aperçois que tout est si beau dehors. Tout est magnifique, c'est calme. Et ça contraste avec l'atmosphère oppressante de la vieille prison où je me suis enfermé. Je regarde dehors, je dis c'est beau. Quand je regarde dedans, je dis mais c'est sale, c'est sinistre, c'est terrible. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je pourrais pas vous l'expliquer, mais ne demandez pas pourquoi, ni comment ça s'est passé, mais comme je me penche à la fenêtre, je regarde, et malheureusement, je laisse tomber la clé à l'extérieur. Waouh ! Ah ! Ça change tout. Vous comprenez ? Ça va ? Vous suivez, hein ? J'ai essayé d'y mettre de la démonstration, hein ! Je laisse tomber la... Je ne sais pas, mais... Quelquefois, on fait des choses bizarres, hein, quand même. Oui, et elle m'échappe des mains, cette clé, et elle tombe en contrebas de la fenêtre, d'où il m'est impossible, mais impossible, de la récupérer, parce que moi je suis à l'étage, elle est là, je la vois, elle est peut-être à 5-6 mètres, mais elle est en contrebas, j'ai pas le bras assez long, hein. Elle est sous mes yeux, elle est inaccessible, et là ça change la donne, ça change les choses. Je suis bien prisonnier. Je me retrouve captif. Et personne ne peut ni m'entendre, ni me secourir. Alors je vais m'époumoner, je vais essayer de crier. Mais le pays est désert. Il est beau, mais désert. Alors là, je prends conscience que je suis dans une situation difficile. Je ne sais pas comment vous l'auriez vécu, mais je pense que ça laisse réfléchir. On n'aime pas trop l'insécurité. Mais remarquez, quand on est à l'intérieur d'une prison, il peut rien vous arriver de mal, hein, parce que vous êtes en sécurité, hein. Oui. Enfin, on peut voir les choses comme ça, si vous voulez, hein. Et là, il y a un sentiment d'effroi qui va me saisir, qui va m'étreindre, et je suis bel et bien pris au piège de mon imprudence. J'aurais pu continuer ma promenade. Au lieu de m'arrêter là, dans ce détour, j'aurais pu continuer et puis rentrer chez moi tranquillement. Mais là, j'étais imprudent, j'étais négligent aussi peut-être, inconscient. Alors que faire? Les minutes passent, les heures passent, et ma liberté m'a échappé. Vous savez que les hommes aiment la liberté, hein. D'ailleurs, c'est sur le fronton de nos édifices publics. Liberté, égalité, fraternité, hein. Liberté. Qu'est-ce que les hommes ne feraient pas pour la liberté? La liberté, c'est d'avoir une pièce d'identité, un passeport, de pouvoir aller dans tous les pays, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes, hein, sur la Terre. Hein. Il y en a qui sont en prison dans leur pays, hein. Ça vous le savez. C'est de pouvoir être un citoyen et de, voilà, je suis dans un cadre de loi libre de faire ce qui est convenable de faire. Et quand on a perdu cette liberté, c'est là où on s'aperçoit qu'elle nous manque. Il y a des millions et des millions de gens qui ont donné leur vie pour la liberté, qui ont fait couler, qui ont donné leur sang. Hein, c'est la période là où on est en train de commémorer les atrocités du XXe siècle, hein. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui se sont élevés pour dire, eh bien moi je donne ma vie pour ma patrie, je donne ma vie pour ma famille. Et ils se sont battus, ils ont donné leur vie. Alors, moi je m'aperçois que ma liberté eh bien m'a échappé, et tout cela pour une stupide curiosité. Je voulais savoir. Si vous mettez en parallèle le livre de la Genèse, Adam et Ève, ils voulaient savoir. Vous connaissez l'histoire? Dieu avait mis, figurez-vous, Adam, dans un jardin, chapitre 2, un jardin idyllique, un jardin splendide, un jardin merveilleux, chapitre 2 du livre de la Genèse. Et Dieu va parler à sa créature, il va lui dire, tu vois Adam, eh bien je te donne tout, tu es le roi de la création maintenant, je te donne tout, tu seras heureux, parce que ce que je t'ai préparé c'est bon, c'est bien, c'est même très bon. Il lui dit, tu vois, il y a des arbres. Il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle l'arbre de la vie. Celui-ci, tu peux manger du fruit, il n'y a pas de problème, parce que ce fruit-là va te régénérer, il va te transformer. C'est un bon fruit, c'est le fruit de Dieu, c'est le fruit de la vie, c'est le fruit du bonheur, c'est le fruit de la paix et du repos. Et il lui dit, tiens, viens voir un petit peu Adam, je vais te montrer, il y en a un autre là, tu vois. Il est beau, hein? Ah oui, il est beau. Parce que tout était beau dans le paradis terrestre. Hein. Et il lui dit, tu vois, cet arbre, il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire mal? Est-ce qu'il y avait que le bien? Adam ne connaissait que le bien. Il ne connaissait que la vie. Il ne connaissait que le bonheur. Tiens, c'est un mot bizarre, le mot mal. C'est curieux, ça. Parce qu'il fallait bien que, quelque part, même si la créature était dans un environnement, comme nous l'avons dit, avec tous les qualificatifs splendides. Une chose qui est certaine, c'est que Dieu est un Dieu qui n'a pas fait de ses créatures des robots. Appuyés sur un bouton en disant « tu vas faire ça parce que je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu et tu vas m'obéir ». Non, Dieu a laissé l'homme libre de choisir, ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce qui lui permet finalement eh bien, d'être une personnalité à part entière. Autrement, nous ne serions que nous ne serions que des instruments sans possibilité de finalement d'être des hommes. Et ça fait partie du privilège que Dieu a donné dans sa création. Faire de l'homme, eh bien, une créature libre, libre de choisir. Mais il n'y avait pas trop le choix à l'époque parce que, enfin, mis à part cet arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque tout était bon. C'est facile quand tout est bien, vous savez, on est heureux, hein. Mais quand on est confronté avec une tentation devant quelque chose de curieux, de mystérieux, où Dieu nous dit, attention, derrière cet arbre, et dans les fruits de cet arbre, il y a la mort. Si tu y touches, tu vas mourir. Il y a un énergumène qui passe, qui s'appelle le serpent. Et il va dire à Ève, tu sais ton Dieu, hein, c'est un menteur. Quand il t'a parlé de l'arbre du bien et du mal, quand il t'a parlé de l'arbre de la vie, tout ça, ce sont des histoires. Est-ce que Dieu aurait réellement dit que vous alliez mourir? Je reprends le texte, hein, de mémoire. Alors Ève, elle ne sait plus où elle en est rendue. Elle ne sait plus. Elle dit, mais qui dois-je écouter? Est-ce que c'est celui qui m'a créé? Ou est-ce que ce serpent là qui est par terre, qui est en train de ramper, et il me dit que finalement tout ce que Dieu m'a dit, c'est un mensonge? Curieux, tout ça. Et le serpent va continuer, et il va dire, mais non, mais c'est des petites histoires, tu sais, le fruit, il est aussi bon que les autres, tu peux en prendre autant que tu veux, hein. Vas-y, ne te prive pas, il y en a autant que tu veux, de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu t'a menti, quand il t'a dit que vous mourrez pas, que vous alliez mourir. Mais c'est pas vrai, vous allez pas mourir, vous serez même comme des dieux, et vous aurez la connaissance du bien et du mal. C'est le texte, hein. Ève, je sais pas ce qu'il lui a pris, elle a perdu la clé. Elle est rentrée dans la prison. Et elle a perdu la clé. Et elle a dit à son mari, « Dis donc, Adam, moi je veux pas être tout seul. Hein. Tu rentres avec moi. Hein. » Eh oui. C'est pour ça que nous avons lu le texte. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et là, et le péché s'est répandu à tous les hommes, et c'est pourquoi tous les hommes sont mortels. Alors, on en est là, justement. Et que faire à ce moment-là? Que faire? Cette liberté que j'aimais tellement, eh bien, elle a disparu. Et cette curiosité qui m'a amené à tout cela, pour quelque chose qui n'est pas beau en plus, cette prison, dans ce fond du bois là, c'est terrible. Alors quoi que je fasse, rien ne pourra effacer ma stupide maladresse. Au mieux, il me reste simplement à attendre un hypothétique voyageur qui passe par là, un égaré comme moi, et au pire, attendre dans cette horrible prison dans laquelle je suis, dans cette horrible prison et de solitude, que ma vie se finisse. Voilà, c'est-à-dire que je meurs. Sans espoir, sans espérance. C'est ce que nous dit le psaume 10, il n'y a pas un seul juste, pas un seul qui soit intelligent. Tous les hommes sont perdus. Alors on a le choix. Soit on va attendre un hypothétique sauveur, entre guillemets, qui n'en est pas un, comme beaucoup d'hommes et de religions se sont donnés à travers ceci et cela, ils ont espéré plus dans les hommes qu'en Dieu. Ou alors à ce moment-là, eh bien, je sais que c'est inéluctable, je vais mourir et je vais attendre dans ma solitude, comme cela, tout simplement. Alors, comment je peux faire? Ben, je vais réfléchir. Mais faut réfléchir dans le bon sens et faut réfléchir vrai. Alors je me dis, j'étais si bien dehors. Ça vous rappelle rien, ça? Tiens, à propos. Vous savez l'histoire que Jésus nous raconte dans la perle des paraboles que l'on appelle le fils prodigue? Vous savez ce garçon-là qui va demander, avant la mort de son père, qui était pas près de mourir d'ailleurs, qui va lui dire, tu me donnes une part d'héritage. Parce que moi, je voudrais vivre, je voudrais faire la fête, je voudrais vivre des choses que je ne peux pas vivre depuis ma petite enfance. Je me sens pas libre à la maison. Et pourtant, c'est un fils qui est béni, c'est un fils qui a tout ce qu'il veut. Alors il va venir voir son père, il va lui dire, eh bien, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et puis moi, je veux partir. Parce que il savait très bien, ce garçon, que loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, hein. Et il a fait une numba avec son héritage, et sa vie était dépensée, tout cela. Ouais. Comme je le dis à chaque fois, il était malheureux d'être heureux. Vous comprenez le sens de ces paroles? C'est quand même curieux. Vous savez qu'on est dans un monde qui est malheureux d'être heureux quelque part. Enfin, je veux bien dire qu'il y a du malheur, hein. Mais quand même. Moi, je suis toujours assez surpris de voir les gens toujours se plaindre, toujours avec une mine grise, en disant, mais on n'a jamais assez, jamais assez. On est dans un monde de surabondance et de consommation. Vous savez, ceux qui ont vécu avant nous, ils avaient 10 fois moins que nous. Ceux qui ont connu les périodes de guerre, ils avaient rien du tout. Et aujourd'hui, le monde ne s'est jamais autant plein et n'a jamais été autant insatisfait que dans notre époque. Vous l'avez constaté, vous aussi, hein? Eh oui, c'est comme ça. Alors, on voit un peu que dans notre histoire, moi personnellement, je m'implique moi-même, je me dis, mais c'était bien quand même avant, hein. Ah oui, c'était bien dans le paradis, hein, terrestre. Mais pourquoi je suis rentré dans cette galère? Parce qu'il y a des mots, vous savez, qui veulent dire, enfin depuis quelques années là, les gens parlent de galère. Ils savent pas ce que c'est qu'une galère. Hein. La galère, c'est quand on envoyait des prisonniers ou quand on envoyait les persécutés, notamment les protestants. sur les galères du roi Louis XIV, hein, et qui étaient condamnés par délit de religion ou délit de conscience, qu'on les envoyait pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans à mourir sur les galères du roi, c'était quelque chose, ils savaient qu'ils ne reviendraient pas, hein, à ramer. Eh oui. Alors, je me dis, mais pourquoi je suis monté dans ce navire? J'ai bêtement, tout simplement, joué ma vie, et j'ai perdu. Je ne sais pas si vous avez l'esprit du jeu, mais il y a des jeux qui ne sont pas à jouer. Hein. Il y a des jeux qui peuvent nous emmener très très loin. Donc j'ai perdu davantage. Je prends un mot biblique, je suis perdu. Et quand un homme commence à penser qu'il est perdu, eh bien c'est qu'il est sur la voie du salut. Parce que tant qu'il n'a pas conscience que le monde est beau, tout est formidable, malgré qu'il y ait du bien et du mal, tant que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes perdus sans Jésus-Christ, alors à ce moment-là, eh bien Dieu ne peut rien faire. Ça s'appelle la prise de conscience et la repentance. Et je demande pardon à Dieu, et je sais que si je lui demande sincèrement, réellement pardon, mais Dieu va me pardonner. Parce que Jésus a payé à ma place. Tout simplement. Mais voilà que dans notre histoire va survenir quelqu'un qui m'est complètement et totalement inconnu jusqu'alors. J'ai peut-être entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Et il se présente avec la clé et il me l'offre. Lui, il est dehors. Hein. Il me dit, tu veux la clé? Il me voit dans la difficulté, prisonnier, et il me dit, tu la veux cette clé? Il me la tend, il me la propose. Qu'est-ce que vous croyez que je peux lui répondre? Je le vois, je ne le connais pas, il me donne la clé, c'est essentiel la clé. Hein. Qu'est-ce que vous croyez que je vais lui répondre? Je vais lui dire, non merci, je me sens très bien ici. J'ai un toit, j'ai des murs épais, oh, les barreaux me gênent un peu, mais finalement, je suis tranquille, je suis le seul locataire. Comprenez? Ah ben c'est sûr qu'il va pas de concurrence. Hein. Ou alors lui dire, dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne clé? La mise en doute. Ouais. Quand Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je vais lui dire, t'es bien vraiment la porte? T'es vraiment le chemin? T'es vraiment la vie? Est-ce que c'est vraiment par toi que l'on va au Père? Ça revient au même, hein? Est-ce que c'est vraiment la bonne clé? Ou encore, je vais lui dire, rentrez donc, faites comme moi, jetez la clé par la fenêtre et je ne serai plus tout seul. Quelle drôle d'idée, hein? Et pourtant, je voudrais vous dire que la grande majorité du monde autour de nous fait exactement la réponse que je viens de vous proposer. Le doute, la mise en doute de me trouver dans un monde où il y a tant de mal, tant de souffrance et on n'a pas tout vu, et de se trouver bien quand même malgré tout parce qu'on ne veut pas changer de vie, et de rester comme ça, ou alors de dire, eh bien venez tous, on va tous y aller, vous savez comme Michel Polnareff a chanté cette chanson, nous irons tous au paradis, eh bien ça, ça m'étonnerait. Je voudrais pas le démentir parce qu'il doit pas connaître la Bible, hein. Mais toujours est-il que, ou peut-être le laisser passer, de lui dire, écoutez, au revoir, à un autre jour, hein, et de le laisser tout simplement sans lui demander son aide, puisqu'il nous propose son aide. Qu'est-ce que vous pourriez qualifier cette attitude? Vous me direz, c'est de la folie, d'accord? C'est de l'inconscience. C'est de la stupidité. Vous savez, vis-à-vis du message de l'Évangile et du message de la grâce de Dieu, de ce que Jésus a accompli sur la croix du calvaire, les hommes, souvent, ont cette attitude. Tous les hommes veulent aller au ciel. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas de Jésus pour aller au ciel. Je suis le chemin, la vérité, la vie. D'accord? Parce que la vie, elle est là-haut, elle est par bas, hein? Elle est là-haut, naturellement. Alors simplement, une petite explication. Je ne vous ennuie pas avec mon petite histoire, hein. Parce que je vous vois que vous êtes... L'explication. Ce voyageur discret dans la vie des hommes, dans notre monde, à travers tous les temps et tous les siècles, vous savez comment il s'appelle? Vous l'avez deviné, il s'appelle Jésus. C'est lui, Jésus. Jésus qui est passé parmi les hommes comme un simple homme, qui n'est pas né dans le temple de Jérusalem, ni dans les palais royaux. Il est venu comme un simple homme, né à Bethléem, grandi à Nazareth. On n'a pas entendu parler de lui. Il nous est dit qu'il n'a pas fait de bruit dans les rues, qu'il n'a pas éteint le lumignon qui fume, qu'il n'a pas cassé le roseau qui était déjà brisé. C'est ça, Jésus. C'est lui. Et il nous dit, et nous dit la Bible, qu'il détient la clé de la vie et de la vraie liberté. Eh oui, et je vais vous le prouver. Je vais vous le montrer à travers la Bible. C'est Jésus qui détient la clé, la vraie clé. Dans l'évangile de Jean, et là je m'en tiens aux paroles même de Jésus, écoutez, je restitue le texte, vous allez le reconnaître. Jésus dit à tous ceux qui l'entouraient, évangile de Jean chapitre 8, « Si vous demeurez dans ma parole, » c'est ce que l'on fait ce matin, hein, « vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes mes amis, vous êtes mes frères et mes sœurs. » Et il ajoute, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Elle vous affranchira. » Ce à quoi les pharisiens et les ennemis, les contradicteurs de Jésus lui répondirent, « Mais nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes de vrais juifs. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là ?» Et Jésus va leur dire, « Mais comment voulez-vous devenir libre ?» Avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Jésus dira, mais en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché devient l'esclave du péché. C'est pourquoi tout à l'heure il nous est dit par contraste, il nous est dit, mais vous êtes devenus maintenant les esclaves de Dieu. C'est pas pareil. Esclave du mal et esclave du malin, et esclave de Dieu, c'est pas pareil. Il y en a un, c'est la liberté, et l'autre, c'est l'asservissement et la captivité, naturellement. Alors, si donc, et Jésus termine de cette manière, il dit, si donc, le Fils, moi, Jésus, je vous affranchis, eh bien moi je peux vous dire que vous serez réellement libre. Et c'est vrai, c'est ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a fait en tous les cas. Mais c'est Jésus aussi qui possède la clé de toutes nos prisons morales, de tous nos conflits spirituels, de toutes les questions et interrogations et questionnements que nous pouvons avoir, de toutes nos perplexités dans la vie. C'est lui qui tient la clé de ces prisons morales et de tous nos accablements. C'est pourquoi, lorsque il sera sur les monts de Galilée, à un moment donné, Jésus dira, « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos pour vos âmes. » C'est la porte de la prison qui s'ouvre à ce moment-là. Et il a la clé. Mais la clé, elle consiste en quoi ? « Recevez mes instructions. Croyez en moi. » Oui. Parce que je suis doux et humble de cœur. Je n'ai jamais conçu que le Dieu dans lequel je crois et ma foi que j'ai mise en Jésus-Christ, j'ai affaire à des êtres tyranniques et despotes. Moi, pour moi, Dieu n'est pas un père fouettard, c'est un père, c'est mon père. Doux et humble de cœur. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, Dieu ne vous fera jamais du mal. Il ne connaît pas le mal, il ne peut faire que du bien. « Venez à moi, nous dit Jésus. » C'est extraordinaire, hein. Une parole qui est restée dans le temps, qui est restée dans les siècles. C'est lui seul qui est capable de nous faire retrouver le chemin perdu. Cependant, combien d'hommes et de femmes sont restés derrière les barreaux rouillés? Ils le savent, ils sont malheureux, mais ils veulent pas s'en sortir en disant, bah, « Finalement, moi, tout, sauf Jésus. » Eh bien, si on n'a pas Jésus, on n'est pas sauvé. Tout simplement. C'est pas possible. Combien d'hommes encore aujourd'hui l'appellent au secours? Quand un malheureux crie, nous dit le livre des psaumes, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu entend nos prières. Il répond à nos prières. Si nous lui demandons de nous délivrer, si nous lui demandons de nous faire connaître qui est Dieu, qui il est, eh bien, à ce moment-là, il nous répondra. Mais il faut croire en lui, il faut espérer, mettre sa confiance en lui. Je termine. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une contrée florissante dans laquelle nous sommes allés nous promener ensemble. Alors, nous nous sommes réjouis de voir tout ce qu'il y avait autour. Hein. Et cette contrée florissante, n'est-ce pas la vie initiale donnée par Dieu à l'homme en Éden ? Mais l'homme a voulu sortir de ses frontières, de ce jardin. Un jardin où il y avait la bénédiction de Dieu, où il y avait tout ce qu'il fallait, et l'humanité s'en est allée à la découverte d'un monde curieux, parce qu'il était piqué dans sa curiosité, et d'un monde de là, dans cette curiosité, à découvrir qu'il était mauvais, et qu'il était mortel, et qu'il nous séparait irrémédiablement, finalement, et bien de celui qui nous a donné la vie et qui nous avait préparé le bonheur. Parce que l'homme avait franchi des frontières interdites. Ouais, frontières interdites sous peine de s'y égarer. Et puis, la prison au fond du bois, dont nous avons illustré notre histoire, c'est la tentation. Viens donc, tu sais pas ça? Tu vas le savoir. Mais tu vas le savoir par une expérience. Tu vas le savoir par une expérience douloureuse. Tu vas le savoir par une expérience malheureuse, alors que Dieu aurait voulu nous éviter cela. Dieu avait voulu que l'humanité grandisse dans une expérience positive et non pas négative, sans la mort, sans la maladie, sans la guerre, sans le sang, sans la moquerie, sans la tromperie, sans toutes ces choses. L'expérience va être faite de toute façon, soit elle est faite dans le bon sens, et là, l'homme s'épanouit, se développe, ou alors à ce moment-là, eh bien, il va tourner en rond dans sa sinistre prison, mais à travers quelque chose de douloureux. Et ça, c'est terrible, parce qu'il y a le tentateur. Vous savez, celui qui a été tenté, c'est Jésus, mais il a vaincu la tentation. C'est les 40 jours dans le désert, sermon sur la montagne. Parce que, excusez-moi, je vais l'appeler par son nom, il s'appelle le diable, le malin, il s'appelle Satan. Et nous voyons que lui, il fait miroiter l'impossible bonheur, et il fait marcher le monde aujourd'hui. Hein. Ah, il dit, mais écoute, voilà, si tu fais ceci, cela, je vais te donner du succès, je vais te bénir. Tu vois, voilà, tu as besoin de ceci et cela, bien, je vais te donner la gloire. C'est toujours la tentation que Jésus a connue, naturellement. Et le monde marche toujours avec ça. Il y a une chose qui fait marcher le monde, c'est l'argent aujourd'hui. Hein. L'argent n'a pas d'odeur, mais ça fait suivre tout le monde. Hein. En tous les cas, ça marche quand même, non? Hein? Mais c'est comme ça. L'impossible bonheur dans un monde de malheur et de mort, animé de cet irrépressible désir de connaissance, avec cet attrait, cette attirance pour l'inconnu. Ouais. Si nous connaissons déjà Jésus, hein, c'est certainement la plus belle et la plus grande de toutes les connaissances. Connaître sa parole, connaître sa personne. Et derrière lequel cet inconnu se cache un ennemi invisible qui ne dit jamais son nom et qui avance toujours masqué. Ouais. Et souvent les gens ne croient pas au diable. Mais moi je dis que il y a Dieu, il y a le diable. Dieu est une réalité spirituelle et le diable en est une autre, mais diamétralement opposée, antinomique. Le courant d'air n'est pas le hasard. Un chrétien né de nouveau ne vous dira jamais qu'il croit au hasard. Le hasard n'existe pas. Non, ça n'existe pas. La clé qui échappe de ma main, ce n'est que le commencement, tout simplement, de la triste réalité des souffrances ici-bas, et qui n'a rien à voir avec de la malchance. On parle de mauvaises étoiles et de bonnes étoiles, ça n'existe pas. Ça, ce sont des lieux communs que les gens se sont répétés les uns les autres de génération en génération. Non, il y a la grâce de Dieu, il y a la providence divine, il y a ce regard bienveillant de mon Dieu qui me suit tout au long de ma vie pour me bénir et me donner toute la grâce qui m'est nécessaire pour vivre, et vivre bien. La sinistre pièce à l'unique fenêtre représente la condition de l'humanité tout simplement captive et sans issue. Eh oui, j'ai voulu essayer de démontrer ce matin à travers cette petite histoire ce que pouvait être l'histoire du monde d'hier, d'aujourd'hui, et je crois que inexorablement le monde de demain. Qu'est-ce qu'il nous prépare, le monde de demain ? Vous pouvez me le dire? Moi, ce que la seule réponse que je pourrais vous dire, c'est que Jésus nous en a parlé du monde de demain. Mais quand il le disait, il y a 2000 ans. Mais le monde de demain, il est toujours d'actualité pour ceux qui vivent le moment présent. Et on s'aperçoit que si on regarde le passé, ça a été un monde terrible. À travers tout ce qui s'est passé par 20 siècles de christianisme et 20 siècles, finalement, depuis la venue de Jésus. Jésus nous le dit. Je vous ai tout annoncé d'avance. Croyez en moi. Croyez en Dieu et que votre cœur ne se trouble point. Ce sont des paroles de la Bible, tout cela. Le monde de demain, quand on entend les bruits de guerre, les bruits de bottes ici ou là, on se dit, mais Seigneur, Nous sommes assis sur un baril de poudre. Mais comment vivre tout cela sinon avoir une expérience dans notre cœur qui va nous donner de regarder non pas sur la terre, tout en ayant de la compassion pour les hommes qui sont nos semblables, mais d'avoir aussi une perspective pour le ciel. Et c'est ça ce qui fait la force des vrais chrétiens, cette espérance que nous avons dans le ciel, un Dieu qui est sauveur, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui veut faire et qui veut nous bénir encore. Alors devant cette condition terrible de l'humanité, il y a Paul qui dira ces paroles, et je le restitue, il dira « Mais misérable que je suis !» Le grand apôtre Paul dit ça, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il est malheureux, Paul, quand il écrit ça. Mais il va dire tout de suite après, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. » Le salut, il est en Jésus-Christ. Il n'est pas autre part. Et je reviens tout simplement pour terminer sur cette parole que nous avons lue, mais maintenant, c'est maintenant. Vous voyez, on est réunis là, il est 11h30, c'est maintenant. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus des enfants de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour destination la vie éternelle. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait l'expérience, pour ceux qui voudraient le faire, ou ceux qui ont besoin d'un renouvellement dans cette expérience, la parole est là, hein, tout simplement. Si je crois en Jésus, alors à ce moment-là, le Seigneur va m'affranchir. Il va m'affranchir de mes tentations dominantes, de mes passions. Il va m'affranchir de toute cette tendance humaine qui me conduit selon ma nature à des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas belles, et qui vont se retourner contre moi. Je vais perdre la clé et je vais me renfermer. Que le Seigneur nous aide ce matin. Parce que nous en avons besoin, vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'espérance que j'ai, c'est que le Seigneur est là, et c'est lui qui va faire ce que je ne peux pas faire. C'est lui qui va me sortir de mes prisons. C'est lui qui va me sortir de mon obscurantisme. C'est lui qui va éclairer mon âme, ma conscience et mon esprit, et qui va me donner cette conviction à l'intérieur que, au fond de moi-même, que c'est à cause de Jésus que je suis sauvé. Cet inconnu qui passe dans nos vies, qui frappe à la porte de nos cœurs, où Jésus dira dans le livre de l'Apocalypse, si quelqu'un entend et qu'il m'ouvre, alors à ce moment-là, je rentrerai chez lui et je ferai ma demeure avec lui, je ferai ma demeure en lui. C'est ça la proposition. Ça va? C'est bien? C'est compréhensible? C'est vrai, je crois, hein, me semble-t-il. Parce qu'autrement, je recommence. Je vous raconte encore une autre histoire. Non. En tous les cas, merci Seigneur. Vous savez, quand on chante les cantiques comme on les chante le dimanche matin, quand vous entendez les frères et les sœurs qui prennent la parole à haute voix et qui disent « Seigneur, merci parce que tu m'as béni, merci parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu as fait ceci et cela », mais c'est parce que nous sommes convaincus que Jésus est notre sauveur. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, nul ne vient au Père que par lui. Que Dieu nous bénisse, on prie quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que tu as souvent expliqué les choses par des paraboles. Et ce matin, nous étions vraiment dans une explication parabolique. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous fasses grâce. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom, bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous ton secours, mais nous voulons te dire que nous avons foi en toi. Notre confiance et notre espérance est en Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.